Le livre de la Genèse, chapitre 50. Et nous allons commencer notre lecture au verset 14. Et ce matin, nous allons voir le fossé séculaire. Genèse, chapitre 14. Joseph, après avoir enterré son père, retourna en Égypte avec ses frères et tous ceux qui étaient montés avec lui pour enterrer son père. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent: Si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Et ils firent dire à Joseph: Ton père qui a donné cet ordre avant de mourir, vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui, et ils dirent: Nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit: Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Verset 22. Joseph demeura en Égypte, lui et la maison de son père. Il vécut 110 ans. Joseph vit les fils d'Éphraïm jusqu'à la troisième génération, et les fils de Makir, fils de Manassé, naquirent sur ses genoux. Joseph dit à ses frères: Je vais mourir, mais Dieu vous visitera, et il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant: Dieu vous visitera, et vous ferez remonter mes os loin d'ici. Joseph mourut, âgé de 110 ans. On l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Et c'est la parole de Dieu. Nous arrivons dans la dernière ligne droite de notre étude. Alors, ce n'est pas la dernière ligne droite de la promesse de l'Alliance, car alors il faudrait aller jusqu'à l'Apocalypse et regarder ce que l'Apocalypse annonce pour la suite. Mais nous arrivons au passage entre la fin de la famille d'Abraham, pour commencer avec ce qui va devenir la nation d'Israël plus tard, et entre la fin de la Genèse et le commencement de l'Exode, donc juste les versets qui suivent, nous avons un silence de presque 4 siècles, aussi long que le silence qui s'est écoulé entre Malachie et la prophétie de Jean-Baptiste. Toute cette époque est résumée par la mention que les enfants d'Israël se multiplièrent, donc ils sont installés, et qu'il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Voilà 400 ans qui sont résumés. Je ne sais pas comment notre vie sera résumée, n'est-ce pas? Et avant d'aborder nos derniers paragraphes d'études, je veux m'arrêter sur une question qui m'a été posée. Je ne dirai pas par qui. La chose ne me posait pas question, mais il est bon d'y jeter un œil parce qu'il y a des leçons. Non, non, la question ne vient pas d'où on pense. Je vois des sourires. N'est-ce pas? Ça aurait pu venir, mais non. Non, il y a des leçons là. Alors la question c'est pourquoi Dans notre dernier passage, c'est-à-dire la semaine dernière, pourquoi Joseph est-il retourné en Égypte alors qu'il était en Canaan, la terre promise, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas s'y installer de nouveau et, je suppose, passer tout de suite à la période des juges, sans esclavage, sans exode, sans Sinaï, sans rébellion dans le désert, et ainsi de suite, et sans conquête de Canaan, parce que, voilà, c'était là. Alors, en fait, on peut dire, et c'est vraiment la réponse, que Joseph est retourné à cette époque-là, après les funérailles de son père, il est retourné en Égypte par la foi. Par la foi. Et la réponse peut surprendre, car cela ressort clairement de toute notre étude. Longtemps avant Joseph, que Joseph existe, au chapitre 15, au temps de son arrière-grand-père, n'est-ce pas, Dieu avait renouvelé l'alliance, les promesses de l'alliance, et il les avait précisées. Il avait fait cela avec Abraham. Il avait dit au patriarche, « Ta récompense sera très grande, c'est-à-dire que ce que je te promets, je le donnerai. » Puis il lui avait dit, « C'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier, et non pas Eliezer de Damas. » Et puis enfin, il lui a annoncé que sa postérité sera comme la multitude des étoiles. Et il parlait avec un homme dont la femme était stérile et qui était passé l'âge. Et puis, après le rite de l'Alliance, vous vous rappelez, quand la flamme est passée entre les moitiés de carcasse, après le rite de l'Alliance, l'Éternel lui avait indiqué, et nous allons au verset, au chapitre 15, versets 13 à 16. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la quatrième génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. » Donc voilà ce que Dieu, l'Éternel, annonce prophétiquement à Abraham, et on a fait plusieurs fois mention de cela. Mais il est bon de le lire, de se rappeler exactement ce qu'il a dit. L'Éternel, en fait, lui dit ce qui va se produire, et d'une manière mystérieuse, il ajoute une raison pour laquelle il va faire cela de cette manière-là. Il dit « L'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. » C'est la raison pour laquelle Dieu annonce tout cela, et c'est pour cela que tout cela se passe. Alors, laissons au Seigneur la question du sens de ces dernières paroles. Et je les paraphraserai en disant, le temps n'est pas encore venu et j'ai encore des choses à faire. Et cela doit nous suffire. Cela doit nous suffire. Mais il est clair que les descendants d'Abraham, d'après la parole de l'Éternel, seront dans un pays étranger pendant 4 siècles. Et que l'Éternel les en fera ressortir pour les ramener en Canaan. Ça, c'est clair. Et ce message a été transmis de père en fils, Abraham, Isaac, Jacob, et voici Joseph. Et sans aucun doute, Éphraïm, Manassé ont reçu cela. Et puis, Jacob, rappelez-vous, au moment de quitter Canaan pour descendre en Égypte, selon la providence du Seigneur, reçoit de nouveau la parole de l'Éternel, chapitre 46, et au verset, les versets 3 et 4. Vous vous rappelez que Jacob s'est arrêté à Beersheba, et là, il a une vision que lui donne l'Éternel. Et Dieu dit, verset 3, « Je suis Dieu, le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, de sortir du pays de la promesse, car là, je te ferai devenir une grande nation. Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même, je t'en ferai remonter. » Voilà ce que le Seigneur annonce. Et Joseph, qui s'est installé en Égypte avec ses frères, c'est-à-dire avec les descendants d'Abraham, connaît ces paroles de Dieu. La servitude est encore dans le futur et probablement assez floue dans sa pensée. Mais lui et les autres descendants d'Abraham sont désormais dans une nation étrangère, comme l'a annoncé l'Éternel. Et Joseph se souvient aussi du fait que Dieu a dit « Je jugerai cette nation et je t'en ferai remonter. » L'Éternel a des choses à faire encore. Et ce n'est donc pas à Joseph de prendre les choses en main et de dire « Non, ben, je vais en profiter, je suis à Canaan. Au lieu de retourner en Égypte, je vais faire monter le reste de la famille qui est encore à Goshen. » Non, ça n'est pas à lui de prendre les choses en main. Ainsi, par la foi en ce que l'Éternel a dit, Joseph retourne en Égypte, bien que cela annonce quelque part une servitude et des difficultés. La foi, mes amis, obéit toujours à la parole de Dieu. Toujours. Et c'est pour cela que Joseph et les autres retournent en Égypte. Et c'est tout simplement la réponse à notre question. Venons-en maintenant à notre passage. Et il est intéressant de souligner qu'il met en lumière le fossé séculaire qui sépare les hommes. C'est pour ça que j'ai donné ce titre. Les deux voies qui régissent leur destinée. Je l'ai mentionné plusieurs fois, mais le premier livre chrétien non inspiré commence par cette phrase. Il y a deux voies devant les hommes, et la différence entre elles est très grande. Et c'est ce que nous voyons ici. Et notre premier point, parce qu'en fait, il y a deux grands passages ici. Notre premier grand point, c'est la peur de la chair. La peur de la chair. Et pour reprendre un peu ce que nous avons vu mercredi, ici j'utilise le mot peur et non pas le mot crainte. C'est-à-dire, c'est une peur qui vient de la chair, c'est la peur servile. Alors, il importe de bien camper le décor. Souvent, on lit la Genèse ou les passages comme ça, et on oublie de penser que ce sont des choses réelles qui se sont passées. Cela fait à peu près 18 ans que la famille est en Égypte, installée en Égypte. Joseph a autour de la soixantaine, et ses frères ont environ entre 65 et 75 ans. On prend 3 ou 4 années de côté, ce n'est pas un problème. Voilà. Même Benjamin est probablement pas beaucoup plus que 65, ni beaucoup moins, autour de cela. Il s'est déjà écoulé au moins 30 années depuis le moment où les frères ont vendu Joseph en esclavage. Et encore plus depuis que leur haine charnelle s'est enflammée contre lui. Et mes amis, 30 ans, c'est un temps très long. Cette année, par exemple, cela fera 30 ans que mon père est décédé. Alors, j'étais encore tout jeune, mon fils avait 15 ans, si ça peut vous situer un peu la chose, n'est-ce pas, hein? 30 ans, c'est très long, un temps très long. Où étiez-vous? Que faisiez-vous il y a 30 ans? Au mois de février 93. Ah, voilà. Ça nous permet de voir ce qui se passe ici. Est-ce que vous imaginiez vivre ce que vous vivez aujourd'hui? Pour certains d'entre nous, on n'avait aucune idée que Chalon existait, n'est-ce pas? Et voici que tous les frères, y compris Joseph, reviennent en Égypte. Et dans un sens, ils rentrent à la maison, Ils sont installés, n'est-ce pas? 17 ans, c'est aussi un long temps, très long. Et la fin du chapitre 47 indique qu'ils se sont installés à Gosen. Donc ils rentrent à la maison, ils ont l'habitude. Mais dans leur pensée, dans la pensée des frères de Joseph, quelque chose a changé. Et je précise, dans leur pensée, car en fait, ce qui a changé n'est pas si dramatique pour leur vie. Je m'explique. Désormais, leur père, le patriarche, n'est plus là. Mais soyons réalistes. Cela fait longtemps que Jacob n'était plus un élément fonctionnel dans la vie de la famille. Nous ne traitons pas avec des ados ici. Ce sont des gens qui sont déjà âgés. Ce ne sont pas des gens qui doivent quémander la permission de minuit, si je puis dire. Judas, par exemple, vous rappelez, chapitre 38. Il n'est probablement pas allé voir Jacob pour demander la permission d'aller s'installer chez son copain Hiram l'Adulamite. Non. Donc, d'un certain côté, rien n'a changé. Pourtant, maintenant, les frères sont saisis de peur. Leur cœur est écrasé. Une peur si forte qu'ils envoient une ambassade auprès de Joseph. Et puis, eux-mêmes viennent dans sa présence et ils se prosternent devant lui et ils s'offrent en fait comme esclaves à Joseph. Voilà la crainte, la peur qui se saisit d'eux. Soudain, ils se réveillent et ils sont directement en face de Joseph. Pour eux, avant il y avait un peu le coussin de Jacob. En fait, c'était faux, mais pour eux. Et les frères tremblent. Ils tremblent vraiment comme des feuilles. Là encore, il faut regarder à la réalité. Parce que cela fait 17 ans qu'ils sont en réalité directement face à Joseph. Ce n'est pas Jacob qui a pris soin d'eux au travers des années de famine. Mais voilà que soudain, la terreur s'empare d'eux. Et la question se pose, qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, il est clair que jusqu'à ce jour, après toutes ces années, un temps très long, n'est-ce pas, ces hommes n'ont rien saisi de la grâce. Faisons attention ici, car la situation est plus nuancée qu'on pourrait le penser. On n'est pas en train de nécessairement de traiter dans le noir et blanc ici. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Nous parlons des chefs de famille de la lignée de l'Alliance. La promesse de l'Alliance est confiée à cette famille élargie, ces 70-75 personnes qui sont maintenant en Égypte. Nous avons vu aussi que Judas a été amené à la fois dans cette promesse par l'Éternel lui-même. C'est la fin du chapitre 38. Et depuis, il a pris sa place, n'est-ce pas, dans cette lignée. Et en particulier, cela fait près de 20 ans, que la grâce remplit l'assiette des frères. Par Joseph lui-même. Pourtant, eux, qui sont au bénéfice de la grâce, si on peut dire, en image, ils n'ont pas encore saisi quelle est la nature de la grâce. Et le résultat, c'est qu'ils tremblent. Comprenez bien que nous ne parlons pas ici de savoir s'ils sont convertis ou non. Nous sommes dans l'Ancien Testament et les choses sont différentes sous bien des aspects. On en a parlé plusieurs fois, n'est-ce pas? Non, tout ce que nous disons ici, c'est que ces gens n'ont pas compris comment la grâce fonctionne. Et même s'ils sont au bénéfice de la grâce à divers niveaux, à la fois au niveau personnel et au niveau du dessein de Dieu, la grâce n'est pas opérationnelle dans leur pensée. Et ainsi, elle n'est pas non plus opérationnelle dans leur expérience. et il tremble. Quel est l'aspect de la grâce qui aurait dû les calmer? Eh bien, c'est le pardon. Le pardon, la grâce pardonne. Alors, je sais que théologiquement, le pardon ne s'obtient que lorsque la justice et la colère de Dieu sont mises au repos par un sacrifice d'expiation, comme il était déjà annoncé au moyen de ce sacrifice, et cela, dans l'Ancien Testament, se saisit par la foi, comme Abraham, comme Isaac, comme Jacob. Mais ici, leur forfait si ancien avait été pardonné par celui qui l'avait subi. Joseph a pardonné, et il l'a dit plusieurs fois, n'est-ce pas? La merveille du pardon authentique est qu'il engendre l'oubli. On met de côté. Mais les frères n'ont pas saisi le pardon, car ils n'ont pas oublié. Alors quand je parle d'oubli, on a tendance à réagir, à dire, mais ouais, mais on garde quand même ça dans l'esprit. Et c'est vrai. Joseph d'ailleurs va parler. Il dit, vous avez agi en mal, dans quelques phrases, n'est-ce pas? Donc, d'un certain côté, il n'a pas oublié. Mais la chose n'est plus opérationnelle. Et c'est ce qui est dit quand Dieu, il est dit que Dieu oublie le péché de son peuple. Bien sûr qu'il ne peut pas oublier, mais le péché du peuple n'est plus opérationnel. Il a été expié. En rapport à leur crime, l'ardoise est vide. Objectivement vide. Joseph a oublié, c'est-à-dire que Joseph ne tient plus rigueur à ses frères de ce qu'ils lui ont fait. Mais pour eux, l'acte d'accusation était encore tout aussi précis que le jour où ils ont touché les 30 pièces d'argent. Et c'est le problème du croyant. Il n'a pas compris que Christ a détruit l'acte d'accusation. Il l'a brûlé. On ne peut même plus le retrouver. N'est-ce pas? C'est cela. Non, Joseph ne leur tient plus rigueur. Combien de gens ressemblent à ses frères? Or, pour ceux qui rejettent la provision de Christ, ou tout au moins qui vivent sans s'en saisir, alors c'est normal, ils ont plutôt intérêt à craindre, parce que ceux qui se préparent n'est pas bien en leur faveur, n'est-ce pas? Mais combien de croyants, et de croyants authentiques, leur ressemblent? Et je parle de gens en qui l'Esprit a agi dans sa grâce pour leur donner la paix et le pardon vis-à-vis de Dieu, objectivement. Dieu ne les tient plus, ne leur tient plus rigueur de leur rébellion. Et pourtant, ils tremblent. Ils tremblent. Combien de croyants tremblent? Ne pas saisir la grâce entraîne toujours la peur servile qui souvent pousse à s'évertuer de manière stérile, à agir selon la chair, c'est-à-dire à craindre, à douter, à faire des efforts qui sont futiles finalement pour obtenir quelque chose qu'on a déjà. L'oubli du pardon, enfin le fait de ne pas saisir la grâce entraîne toujours ces choses. Et il nous faut reconnaître que ça nous habite toujours à un niveau ou à un autre parce que nous sommes dans la chair, n'est-ce pas? Et il nous faut lutter contre ça. On n'a pas simplement à lutter contre l'ennemi au dehors, mais aussi l'ennemi au dedans. En fait, les frères prêtent à Joseph les dispositions qui résidaient dans leur chair. La revanche. C'est pour ça qu'ils voulaient le tuer, n'est-ce pas? Le songeur, celui qui occupe la prééminence. Non, ils veulent la revanche, l'inimitié le désir de la prééminence, le rejet de la réalité de Dieu. Dieu avait choisi Joseph et ces gens-là rejetaient ce que Dieu avait choisi. En fait, ils rejetaient Dieu eux-mêmes. Et ils prêtent à Joseph les mêmes sentiments. Maintenant, ils pensent que Joseph va se comporter comme eux se sont comportés, et je répète, 30 ans avant. Il y a très longtemps, n'est-ce pas? Et les voilà qui fabriquent toute une farce. C'est tragicomique, en fait. Une ambassade auprès de Joseph. Mais Joseph les a reçus dans sa maison, n'est-ce pas? Une fable au sujet de Jacob. Qu'est-ce que Jacob va commencer à donner des instructions à Joseph alors qu'il a bien compris, lui, ce qui se passe dans le cœur de Joseph? Une attitude servile. Ce sont quand même des frères, n'est-ce pas? Pourquoi se prosterner? Et puis surtout, l'incompréhension du sentiment de la famille. Et c'est ce qui avait touché Joseph au moment de la réconciliation, ou tout au moins quand il se fait connaître, n'est-ce pas? Il ne pouvait plus résister au fait que voilà, la famille de l'Alliance est enfin réunie de nouveau. Mais les frères sont encore étrangers aux opérations de ces choses. Qu'est-ce que les frères auraient dû faire? Voilà la question, n'est-ce pas? Parce que nous ne voulons pas rester dans la crainte pour nous. Eh bien, ils auraient dû faire tout simplement ce que fait Joseph. Ils commencent par s'affliger de la terrible tyrannie qui ploie ses frères. Quand Joseph entend, il pleure. Ils en sont toujours là. Mais c'est terrible. C'est terrible. Parce que Joseph a probablement été affligé par ce poids pendant presque une année, rappelez-vous, entre les deux voyages des frères pour venir. Et maintenant, les voilà 18 ans après, et ils sont toujours sous ce fardeau-là, ils pleurent. Et ensuite, et je ne parle pas de manière chronologique, il faut le comprendre, ensuite, il a une mission claire, enfin une vision claire, pardon, de qui il est et qui est Dieu. Suis-je à la place de Dieu? Tout premier ministre d'Égypte, le personnage le plus élevé après Pharaon, et on pourrait dire presque, il dit d'ailleurs à ses frères, ou à son père, je suis comme un père pour Pharaon, n'est-ce pas? Tout premier ministre d'Égypte qu'il est, il n'est qu'un frère. Il n'est pas Dieu, il n'est pas celui qui décide. Le pardon appartient à Dieu, la vengeance appartient à Dieu. Qu'est-ce que vous me prêtez ces pensées? Il soumet tout ce qu'il a enduré. Et rappelez-vous, c'était pas des douleurs romantiques. Il a galéré. Tout ce qu'il a enduré, il le soumet au dessein de Dieu. Et soit dit en passant, petite parenthèse, c'est probablement ce qui lui permet de vivre avec ce nuage sombre qui se profile à l'horizon, l'annonce qu'il va y avoir un esclavage. Mais c'est Dieu qui l'a annoncé. Et donc un esclavage annoncé par Dieu vaut mieux que la prospérité dont l'homme s'est saisi, n'est-ce pas? On ferme la parenthèse. Oui, ce qu'ont fait les frères était horrible et très douloureux. Et il faudra une expiation. Il faut qu'il y ait une expiation. Mais la chose est plus grande qu'eux. Puissions-nous vraiment saisir toute la richesse des propos si connus de Joseph? Vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour sauver la vie à un peuple nombreux. On connaît bien ces paroles, mais la puissance qu'il y a derrière, n'est-ce pas? Il est bien important de saisir toute cette puissance, car l'Évangile repose en ce point précis. Écoutez l'apôtre Pierre, bien plus tard, dire « Vous avez mis à mort le prince de la vie. » Vous avez fait mourir celui qui a la vie en lui-même. Ce qui pourrait dire pour un juif, en fait, il n'y a plus d'espoir de vie. Vous avez mis à mort le prince de la vie, mais c'était le dessein éternel de Dieu. Et la preuve, c'est qu'il l'a ressuscité des morts. Et la preuve de cela, c'est que le cœur de ces gens a été percé, n'est-ce pas? Alors, croyant, toi qui es affaibli par le doute, écoute bien. Ce qui procure la paix est un événement réel et objectif qui s'est produit. Et c'est là le fondement qui permet à Dieu de pardonner et d'oublier. Ça n'est pas quelque chose qu'on peut faire ou quelque chose que nous pouvons oublier. Non, c'est un événement réel objectif, en dehors, qui s'est réellement produit. Et donc, nous sommes appelés, chacun d'entre nous, à repousser nos humeurs, nos sentiments subjectifs, comment on se sent. Des choses que simplement, par exemple, une nuit d'insomnie peut transformer. Vous allez vous coucher le soir, tout va bien. Vous êtes en forme, là. Vous êtes plein d'espérance, n'est-ce pas? Vous avez vu le Seigneur œuvrer dans votre vie pendant la journée, vraiment fantastique. Mais peut-être à cause du café ou je ne sais quoi d'autre, vous ne pouvez pas dormir. Et le lendemain matin, où est l'espérance? Où est l'énergie spirituelle? Où sont toutes ces choses? Même l'énergie physique est fichue, n'est-ce pas? Et c'est sur ça qu'il faut qu'on se repose pour obtenir notre salut? Mais c'est ridicule, n'est-ce pas? Absolument ridicule. Non. Veillons à la peur qui vient de la chair. Et passons à notre deuxième point, notre deuxième paragraphe ici. Joseph fit jurer les enfants d'Israël. Joseph fit jurer les enfants d'Israël. Il y a des phrases qu'on lit comme ça qui sont vraiment prégnantes de sens, de richesse. Joseph vécut encore une cinquantaine d'années après la mort de son père, probablement 54 ans. Dans l'Ancien Testament, 110 ans, l'âge où il est mort, est synonyme de vie remplie. Et voir ses arrière-arrière-petits-enfants parle d'abondance, n'est-ce pas? Une abondance de vie. Et c'est ce qui est donné à Joseph. On pourrait dire, à son sujet, ce qui est dit d'Abraham. Quand Abraham mourut, il est dit, il mourut rassasié de jours. Un peu une image qui dit, mais non Seigneur, n'en rajoute pas un, j'en peux plus. N'est-ce pas? Il y en a déjà assez. Rassasié de jours. Mais ce qui ressort de notre passage est ailleurs. Joseph a été béni jusqu'à son dernier jour. Oui. Après, le passage, difficile, n'est-ce pas? Mais c'est ailleurs. Premièrement, Joseph, le jeune homme rempli de foi, est aussi le vieillard de 110 ans rempli de foi. Il est revenu en Égypte par la foi après l'enterrement de son père. Au seuil de sa propre mort, il fait jurer aux enfants d'Israël quelque chose qui montre que sa foi est intacte. Sa foi dans la même parole qu'il a fait revenir en Égypte. Dieu vous visitera. Dieu vous visitera. Après toutes ces années passées en Égypte, même dans les palais d'Égypte, dans les corridors du pouvoir, on pourrait dire, Joseph n'est pas égyptien. Il appartient toujours au peuple de l'Alliance. Et c'est par la foi, c'est par grâce, par le moyen de la foi, n'est-ce pas? L'œuvre authentique de Dieu dans le cœur ne s'évanouit jamais. Si Dieu a œuvré dans un cœur, ce cœur ne connaîtra jamais la perdition. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Peut-être qu'il y a des gens qui lisent la Bible à tort et qui nous font croire cela, mais c'est faux. Et nous le voyons ici. Après 110 ans, Joseph est toujours celui qui croit. Une deuxième chose qu'on voit, une grande différence ici entre la pompe presque démesuré des funérailles et du deuil qui se sont produits au temps du décès de Jacob. On voit la grande différence entre ça d'une part et de l'autre côté ce qui est dit pour Joseph, le premier ou ancien premier ministre et sauveur de toute la région. Autant ce qui est dit par rapport à Jacob semble presque outrancier, autant la fin de Joseph fait penser au terme en catimini. C'est quelque chose, c'est presque... Est-ce que c'était même dans le journal télévisé du jour? Aucune idée, probablement pas. Et il y a une leçon salutaire pour le croyant ici. On ne sait pas si le pharaon de Joseph, est toujours en vie. Mais tout au moins, on peut bien se douter qu'une nouvelle génération est survenue au pouvoir. Peut-être même une deuxième. Et tout héros providentiel que Joseph a pu être au siècle précédent, la vie, maintenant, passe à côté de lui. Il n'est plus au centre. Il n'a plus les rênes de l'Égypte. Et on pense, là encore, au vieux Daniel. Si présent, n'est-ce pas, avec Nebuchadnezzar. Mais voilà que le petit-fils de Nebuchadnezzar a commencé à régner. C'est un brigand, c'est un pauvre type, hein, n'est-ce pas, Belshazzar. Ben, il n'a aucune idée que Daniel... Enfin, il doit avoir une idée, mais il n'en tient même plus compte que Daniel existe, n'est-ce pas? Personne ne pense à lui, sauf la vieille reine qui dit « Il y a quelqu'un qui peut te répondre, il y a quelqu'un qui peut interpréter ta question. » Et voilà Daniel qui revient, n'est-ce pas? Et Joseph, c'est pareil. Mes amis, la vie a tout fait de nous dépasser. Ça ne prend pas longtemps. Ce n'est pas toujours facile à vivre, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Et bien sot est quiconque met tout le poids, ou tout au moins met du poids, dans cette vie qui passe, cette vie qui s'écoule sans arrêt. Nous pensons à Joseph, toute sa sagesse, toute sa gestion de cette terrible crise, n'est-ce pas? 14 ans de travail, n'est-ce pas, en Égypte. Toute sa réputation en Égypte. Dans notre étude, on a suivi Abraham, n'est-ce pas, dans des moments très forts, appelé par Dieu du milieu du paganisme, au milieu d'une civilisation qui était probablement la plus avancée de l'époque, avec le confort de Ur en Chaldée, avec probablement des tas de choses auxquelles il était habitué. Abraham, appelé, et qui est parti. Ça, c'est un exploit de la foi, n'est-ce pas? Sans savoir où il allait. Simplement parce que Dieu l'avait appelé. Mais nous avons donc suivi Abraham. On le voit qui arrive en Canaan. On le voit qui, en fait, est un genre de monstre, de héros, de géant de la foi. N'est-ce pas? Quand Dieu lui apprend des choses qui sont tout à fait impossibles. Il crut Dieu et cela lui fut imputé à justice. Moment très fort, n'est-ce pas, Abraham? Mais c'est fini. C'est fini. Une dépouille qui est quelque part à Macpella. On ne sait même pas où c'est, vraiment. Et puis Isaac, rappelez-vous, on le voit sur la montagne. Et quand il descend, il sait qu'à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Une leçon qui prend tellement de temps à apprendre, n'est-ce pas? On le voit, cet homme qui vient à la rencontre de Rebecca, selon la promesse du Seigneur. Fini. Isaac est passé dans la caverne de Macpéla, une dépouille. On voit Jacob. Jacob, rappelez-vous, celui qui a saisi le talon de son frère, celui qui aimait bien la cuisine, n'aimait pas la chasse, celui qui s'est retrouvé à Bethel, où Dieu l'a rencontré, et à Bethel, où Dieu l'a renouvelé. Jacob, celui de Péniel, qui au milieu de la grande crainte, face à probablement la menace de mort, a lutté contre ce visiteur nocturne, n'est-ce pas? Et il a tenu tête jusqu'à ce qu'il soit béni. Jacob, fini, dans la caverne de Macpéla. Il ne reste que des os dans la caverne. Et Joseph, le grand personnage, celui devant le char duquel il y avait des gens qui couraient et qui annonçaient aux autres à se prosterner, n'est-ce pas? Le voilà qui s'en va. Et tout ce qu'il a à faire jurer au fils d'Israël, il est dit, c'est concernant ses os, sa dépouille. Et puis, on continuera. Nous aurons Moïse. Moïse, cet homme grand, n'est-ce pas? Josué. Voyons Josué, celui qui fait entrer dans Canaan. Les juges. On a eu toute notre étude sur les juges, n'est-ce pas? Des gens bizarres, parfois. Mais quand même, des héros de la foi. Et David. David, ce doux chantre d'Israël, celui qui est le roi, l'homme selon Dieu. Nous avons lu un passage d'Ésaïe, le grand prophète évangélique, celui qui annonce des choses au sujet de Jésus. En fait, il manquait une chose, c'est le mot Jésus dans ce qu'il annonce. Néhémie, celui de la restauration, celui qui est intègre et tout ça. Ils sont tous venus et sont tous partis. Sont tous partis. Et c'est ce que Joseph, ici, en partant, nous indique. Et nous pensons à cette litanie des premiers chapitres de la Genèse. Rappelez-vous. Un tel naquit, est né, il a eu des fils à tel âge et il est mort. Il est mort. Et maintenant, nous sommes 50 chapitres plus loin, à la fin du premier livre. Et nous n'avons pas avancé d'un pouce. Tous ceux-là sont morts. Les frères tremblent de terreur et les hommes, même les meilleurs, meurent. On est toujours là. Toujours là. Mais, ceux qui ne se saisissent pas de la promesse tremblent, mais tous meurent. Mais. La promesse de l'alliance ne meurt pas. La promesse de l'alliance ne meurt pas. Voilà que la bonne nouvelle retentit. Des millénaires après, n'est-ce pas? Dans le ciel, devant des bergers interloqués. Il vous est né aujourd'hui un sauveur qui est le Christ. Celui qui est annoncé. La postérité. Qui est là depuis le début, celui qui naît, que tous ceux-là que j'ai mentionnés ont vu de loin, il vient. Et non seulement il vient, mais il est entièrement pur. Et là, il y a une chose étrange quand nous lisons la parole de Dieu, une chose surprenante. Voilà quelqu'un qui vient et qui ne devrait pas mourir. Parce qu'il n'a pas besoin de payer le salaire du péché. Mais il vient précisément pour mourir. Il vient pour cette heure-là, rappelez-vous, tout le long de son ministère public, il vit cette heure-là. Et quand tant qu'elle n'est pas venue, on ne peut pas mettre la main dessus, n'est-ce pas? Et le voilà qui vient pour mourir, pour accomplir ces choses que Abraham a vues, qu'Isaac a vécues. Que Jacob a entendu et vu, et il meurt. Mais il n'y a pas besoin que nous jurions à quelqu'un comme Joseph pour ramener ses os dans la terre promise. Non, il est lui-même le repos de son peuple. On n'a même plus besoin de Canaan. En Christ est le repos. Le repos de son peuple. Et pour ce peuple, il ressuscite en nouveauté de vie. Et c'est la vie qui habite chaque croyant, depuis Adam jusqu'à aujourd'hui et jusqu'au dernier jour. Nouveauté de vie. Le voile est déchiré, le Saint-Esprit est envoyé, et ceux qui sans cesse marchaient dans les ténèbres, dans la crainte, ont vu une grande lumière. Une grande lumière. Réfléchissons un peu à ce que nous connaissons. Voilà un monsieur qui est dans les steppes superstitieuses de la Sibérie. Elle a vu une grande lumière. C'est pour ça qu'on se sent lié avec lui, n'est-ce pas? On prie pour lui. Il y a nos amis. Pense à cette jeune femme au Japon, nos amis Nouméa en Australie, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui prédispose ces cultures à voir Dieu? Rien du tout. Mais ils ont vu une grande lumière. C'est pour ça que notre ami Steve est reparti là-bas, n'est-ce pas? Et ainsi de suite, on pense à tous les amis que nous avons dans le sud, dans le nord, à l'ouest. Ils ont vu une grande lumière. Et les voilà qui viennent des quatre coins de l'univers. Et nous-mêmes, regardez, on ne vient pas tous de Chalon, hein? Même moi, je ne viens pas de Chalon. Ils viennent des quatre coins de l'univers pour s'asseoir autour de la table du banquet des noces de l'agneau, de celui qui a été donné. Et ils sont là, autour de la table, en compagnie de ceux qui, notamment de celui qui, lors de sa vocation, a obéi. Et il est parti sans savoir où il allait. Peu importe le confort de Ur en Chaldée. Peu importe la famille à Charan. Peu importe. Non, l'Éternel et la promesse de l'Éternel et le don de l'Éternel valent plus que tout cela. Et c'est cela que je vais suivre. Ils sont là, assis, avec Abraham, Isaac, Jacob et tous ceux-là dont nous parlons. Il est parti sans savoir où il allait, mais en fait, il l'a vu. Il l'a vu. Et c'est à lui, à Abraham, que le jour de ce festin a été promis. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. En toi, toutes les tribus, toutes les langues. Et nous voyons cela jour après jour, n'est-ce pas? Et autour de ce festin, mes amis, plus besoin de foi. La foi d'Abraham, la foi d'Adam, d'Ève, la foi d'Abraham, la foi d'Isaac, la foi de Jacob, et ainsi de suite. Et la foi que souvent nous avons tant de mal à rendre opérationnelle dans notre vie, ou à laisser œuvrer dans notre vie, n'est-ce pas? Il n'y en a plus besoin autour de la table. Pourquoi? Parce qu'il y a la vue. Il est là, assis à la même table. Et la question se pose à chacun d'entre nous. Est-ce que tu seras là? Est-ce que tu seras là? C'est la grâce, par le moyen de la foi, qui amène dans la salle du banquet les noces de l'agneau, autour de cette table. Et cette foi est ce qui est donné en Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse à la fin de cette étude dans Promesse de l'Alliance, dans la lignée d'Abraham. On a marché longtemps avec eux. C'est un peu bizarre de s'arrêter. Mais remercions le Seigneur et réfléchissons à ces choses-là. Ruminons-les pour enrichir notre vie. Et que le Seigneur glorifie son nom. Amen.